Je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite et qui me permet donc de découvrir ce que j'ignore, c'est-à-dire les questions plutôt de l'islam et de la laïcité. Et je ne vous parlerai ici que de questions nationales. La question nationale, en notre début du XXIe siècle, soulève de nombreuses interrogations. Et deux phénomènes apparemment contradictoires coexistent aujourd'hui. D'une part, ce qu'on appelle la globalisation semble menacer les États-nations, ou en tout cas mettre en question leur rôle traditionnel dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Mais il y a l'autre aspect, tout aussi important, à savoir la réactivation de la question nationale et la résurgence des nationalismes aux multiples aspects. Cela se marque d'abord par l'apparition récente de nouveaux États-nations, notamment à la suite de la dislocation de l'URSS et de la Yougoslavie. C'est aussi la multiplication de revendications autonomistes ou sécessionnistes dans des États-nations déjà constitués. Et pour en rester au continent européen, on peut citer ici évidemment le cas du Pays Basque, de la Catalogne, de l'Écosse, ou bien évoquer le cas de la Belgique, dont la partition sur base linguistique est un scénario malheureusement de plus en plus probable. Il faut aussi souligner la montée en puissance de la question de l'identité nationale dans les débats politiques contemporains. Je crois qu'aucun de nous, il y a 20 ans, n'aurait imaginé que nous nous réunissions un jour pour discuter de la question de l'identité nationale. Je crois qu'il y a 20 ans, nous pensions la question réglée et dépassée. Même dans les vieux États-nations donc, de l'Europe occidentale, l'identité nationale est devenue progressivement, depuis 20 ans, une thématique majeure de l'espace public et elle n'est plus l'apanage de l'extrême droite nationaliste. Cette identité nationale est aujourd'hui supposée en danger, menacée donc d'un côté par la globalisation et de l'autre par l'immigration. C'est-à-dire qu'elle serait mise en péril par l'envahissement du territoire national par des cultures exogènes menaçantes, l'une arrivant depuis le pôle de la puissance économique en déferlante commerciale et l'autre depuis les continents de la pauvreté en infiltration clandestine. L'identité nationale, ou plus précisément les risques de disparition ou de dénaturation qui pèsent sur elle, a été, on l'a dit, on l'a répété, un thème majeur de la dernière campagne présidentielle en France au début de l'année 2007. Et un des résultats, vous l'avez évoqué, a été la création par le nouveau gouvernement en mai 2007, pour la première fois dans l'histoire française, d'un ministère de l'identité nationale, ou plus précisément d'un ministère de l'identité nationale, de l'immigration, de l'intégration et de la coopération. Je ne connais pas d'autres exemples de ministère de l'identité nationale dans le monde. La question de la nation et de l'identité nationale est donc aujourd'hui en France, comme dans beaucoup d'autres pays, un sujet de débat passionnel. Les publications sur cette question se multiplient sous forme de livres, dans la presse, les débats se multiplient, nous en sommes un exemple. Je crois que la question de la nation était encore très récemment le thème principal du congrès du Parti socialiste en Avignon. Les conceptions de la nation française qui ont été présentées récemment, à droite ou à gauche, dans les débats politiques ou médiatiques, présentaient des différences, notamment à propos de l'immigration. Mais elles se rejoignaient sur deux idées apparemment évidentes. Première idée, la nation française a une identité tout à fait spécifique. Deuxième idée, cette identité spécifique est le résultat d'une longue et très particulière histoire nationale. Alors cette croyance commune à la spécificité de l'identité nationale n'est pas du tout spécifique à la France. En fait, toutes les identités nationales sont considérées par leurs ressortissants comme spécifiques et comme le résultat d'une longue et très particulière histoire nationale. Mais l'identité nationale, quelle que soit la nation envisagée, est le résultat de processus liés à la modernité et à la dimension transnationale de la modernité. Nous devons en effet nous rappeler cette donnée majeure de la géopolitique. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la forme nationale est la plus générale pour les États existants. En tout cas, c'est la forme étatique la plus légitime on considère généralement, au niveau international, qu'une population plus ou moins importante a le droit de revendiquer un État indépendant et souverain si cette population constitue une nation. La grande organisation politique internationale s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Et l'État national est aujourd'hui une sorte de norme universelle en matière politique. Or, il y a 2 siècles, cette forme politique existait à peine. La forme nationale s'est développée en 2 siècles sur la quasi-totalité de la planète. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une forme politique précise s'est universalisée. La montée en puissance du principe national, sa généralisation au cours des 19e et 20e siècles, son incarnation en organisation sociale et politique, ont profondément marqué nos sociétés actuelles, pour le meilleur et pour le pire. Alors, qu'est-ce qu'une nation ? C'est une vaste question. Et des bibliothèques entières de publications lui ont été consacrées. Je ne la résumerai pas donc en un mot, ni même en une phrase. Mais je dirais que sur ce sujet complexe, il faut se défier des réponses sommaires. Et malheureusement, on a trop souvent dit, ces dernières années, que la nation pouvait être résumée en une définition tout à fait claire et simple, définition qui consisterait en fait en une opposition. Et de fait, on a souvent évoqué ces dernières années le fait qu'il y aurait 2 conceptions de la nation. D'un côté, une conception purement politique, dite française, parce qu'elle correspondrait aux idéaux de la Révolution française, et en ce cas, l'appartenance à une nation serait l'expression d'un choix rationnel, contractuel, d'appartenance à un corps politique. Et puis de l'autre côté, on aurait une conception culturelle de la nation. Et cette conception, dite allemande, serait issue du mouvement romantique. Et dans ce cas, l'appartenance nationale serait déterminée par des critères ethniques et culturels. On aurait donc une bonne conception de la nation, rationnelle, politique, respectueuse des droits de l'homme et donc française, et de l'autre une mauvaise conception de la nation, irrationnelle, culturelle, déterministe, conduisant naturellement à l'organicisme raciste, c'est-à-dire une conception allemande. Alors, cette opposition qui a le mérite de flatter l'orgueil national français, cette opposition théorique reflète très bien la relation violemment conflictuelle qui a existé entre la France et l'Allemagne entre 1870 et 1945. Et cette opposition a d'ailleurs ses origines dans une polémique entre intellectuels français et allemands en 1880 à propos de l'appartenance nationale d'un territoire précis, l'Alsace. Mais je le dis avec insistance, cette opposition entre nation politique et nation culturelle ne permet absolument pas de classer les nations qui existent réellement sur la planète. Aucun politiste, aucun historien ne peut classer à partir de cette opposition les nations qui existent réellement. Et cette définition de la nation à la française comme fruit d'un contrat politique purement rationnel ne permet même pas de comprendre la réalité française, puisque nous savons très bien que la France est un pays où l'investissement de l'identité nationale dans la langue et dans la culture est tout à fait intense, et même, on peut dire, exceptionnel. Les récentes lois sur l'immigration, d'ailleurs, exigent des postulants à l'entrée en France, et plus encore à l'entrée dans la citoyenneté française, une bonne connaissance, non pas de la Constitution française, mais de la langue française. Cela dit, il y a bien un rapport étroit entre nation, culture et politique. Car la nation, dans la conception moderne de ce terme, est toujours définie à la fois dans l'ordre politique et dans l'ordre culturel. Cette double détermination politique et culturelle de la nation est au cœur même de la conception moderne. Et c'est, je pense, une des raisons majeures pour le succès et l'universalisation de cette forme politique. Alors, pour le comprendre, je propose de revenir à ce que je connais le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire de revenir à la formation des nations modernes, en partant de cette époque où se forme la conception moderne de la nation, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle en Europe. La nouvelle idée de nation correspond alors à une grande révolution idéologique qui est dirigée contre les principes organisant les sociétés monarchiques et princières. Et cette révolution idéologique pose que les individus masculins doivent être tous libres et égaux devant la loi, quel que soit leur statut social. Cette nouvelle conception pose aussi que la souveraineté n'est pas de droit divin, qu'elle n'appartient pas au monarque. Elle affirme au contraire que la souveraineté appartient au corps politique formé par ses citoyens libres et égaux, quel que soit leur statut social. Et c'est l'ensemble de ces citoyens libres et égaux, qui appelés nation, qui est la seule source légitime de la souveraineté politique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée dans les débuts de la Révolution française, le 26 août 1789, énonce précisément cette définition politique de la nation. Mais, de manière tout à fait significative, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne parle pas d'une nation particulière, qui serait en l'occurrence la nation française. Elle exprime des revendications et des principes universels, et elle ne donne absolument pas les critères qui permettent de distinguer concrètement une nation d'une autre, de tracer les limites, donc, entre la nation politique formée par les Français, la nation politique que formeraient les Allemands, les Anglais ou d'autres. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit la nation de manière abstraite et universelle, sans donner aucunement les moyens de la définir concrètement. Et c'est en fait dans le domaine culturel que vont être établies les bases des diverses nations et les critères de distinction entre nations françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, etc., etc. La conception moderne de la nation résulte donc de l'association entre un principe politique, universel et abstrait, et une définition culturelle particularisante et concrète. Alors, dans la formation des nations réelles depuis deux siècles, l'accent est mis à certains moments sur un aspect plutôt que sur l'autre. Mais c'est toujours leur alliance qui constitue un universel du particulier qui explique, je pense, la généralisation du principe national. La nation moderne, donc, est un corps politique correspondant à une communauté de culture. Cela dit, au moment où l'on pose cette relation, ou on commence à la poser en tout cas, à la fin du XVIIIe siècle en Europe, de telles communautés de culture n'existent pas. Il est tout aussi révolutionnaire d'avancer les principes politiques de la nation que de poser l'existence de communautés culturelles transsociales. L'unification religieuse des États chrétiens a été plus ou moins réalisée au prix de massacres et d'expulsions, mais il n'existe pas de culture commune séculière qui puisse unir aristocrates, bourgeois et paysans. L'hétérogénéité culturelle était très grande dans les empires, royaumes et principautés de l'ère prénationale. Ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme, la diversité culturelle, était extrêmement important dans ces états de l'ère prénationale. C'était une évidence, c'était absolument naturel. La culture des élites, souvent transnationales d'ailleurs, différait radicalement des cultures populaires, elles-mêmes souvent très hétérogènes à l'intérieur d'un même état. Pourtant, il existe aujourd'hui des cultures nationales bien affirmées, transsociales, qui permettent aux individus vivant dans un même état d'avoir des références identitaires communes, très fortes, très solides. Ces actuelles cultures nationales ont été construites, et cela a été l'œuvre absolument gigantesque, menée par des intellectuels, des artistes, des savants, des écrivains, qui dans l'Europe du XIXe siècle et du XXe siècle ont ardemment travaillé à construire les cultures nationales. Il faut souligner que ce travail colossal de construction des identités nationales actuelles a été le résultat d'intenses transferts culturels entre les diverses nations en formation. Et les constructeurs de cultures nationales n'ont cessé d'échanger entre eux des idées, des méthodes et des principes. Ils se sont énormément observés, ils se sont énormément imités. Beaucoup de livres ont été traduits ou transposés, beaucoup d'œuvres artistiques ont été imitées, recopiées, et beaucoup d'argumentaires nationalistes ont traversé les frontières. C'est à peu près toujours dans les mêmes termes qu'on a présenté la nécessité de protéger les monuments historiques nationaux, qu'on a exalté l'art national, qu'on a chanté la beauté du paysage national. Et de fait, si l'on examine les identités nationales européennes qui ont été construites depuis 2 siècles, on voit bien qu'elles sont en fait les variantes d'un modèle commun. Toute nation reconnue possède en effet des ancêtres fondateurs, vous mettez un nom, hein, une histoire multiséculaire continue qui va établir le lien entre les origines et le présent. Elle a des héros qui sont des exemples de civisme et de morale. En général, elle a une langue spécifique, des œuvres culturelles emblématiques. Je parle d'œuvres littéraires, picturales, musicales. Elle a des monuments historiques et des lieux de mémoire, des traditions populaires spécifiques, des paysages emblématiques. Ces éléments, d'ailleurs, servent souvent à représenter la nation dans l'iconographie des billets de banque ou dans les guides touristiques. Du temps où nous avions des monnaies nationales, nous pouvions retrouver tous ces éléments d'identité nationale pour décorer les billets. Le problème s'est posé lorsque nous sommes passés à l'euro, d'arriver à trouver des éléments d'une identité européenne commune qui ne soit pas transnationale. Et comme on ne les a pas trouvés, sur l'euro, il y a des éléments virtuels pour décorer donc notre identité commune européenne. Alors, pour reprendre l'expression provocatrice d'un sociologue suédois, Orvar Löfgren, on peut parler de checklist identitaire des nations modernes. Toute identité nationale est spécifique, mais elle est la variante d'un modèle général. Et les identités nationales modernes, pourrait-on dire, sont en quelque sorte standardisées, ce qui leur permet d'ailleurs d'être intelligibles les unes aux autres. Et d'une certaine manière, cela n'est pas étonnant, puisque l'âge des nations, c'est aussi celui de la révolution industrielle, de l'expansion capitaliste, qui est marquée par la standardisation des échanges, de la communication et de la production. Et d'une certaine manière, cet âge des nations a été aussi l'âge de production d'une certaine standardisation politique dans les formes étatiques. Les cultures nationales telles que nous les connaissons aujourd'hui, donc, ont été construites par, je l'ai dit, des intellectuels, des artistes et diverses sortes d'entrepreneurs culturels. Elles ont été diffusées dans les populations par des opérations pédagogiques, scolaires, mais aussi très souvent extrascolaires. Les intellectuels et les artistes qui ont travaillé à la formation des cultures nationales l'ont fait par patriotisme, pour la gloire et le bonheur de leur nation. Certains l'ont payé de leur vie ou par des années d'emprisonnement. Et l'idéal national qui les animait correspondait aux valeurs politiques de la modernité, du moins dans la première phase de construction des constructions nationales. Et ces valeurs, initialement, c'était l'émancipation, la libération du peuple, l'égalité et la fraternité des citoyens, l'indépendance et la souveraineté de la nation. Et ces cultures nationales, donc, ont fourni aux membres des différentes nations des références communes, transsociales et transreligieuses. Elles établissaient dans l'histoire les fondements d'une communauté de destin. De fait, le passé s'est mis à tenir une place fondamentale et assez paradoxale dans la formation et la consolidation des nations modernes. Paradoxale, puisque je l'ai dit, j'y reviens et j'insiste, la nation, c'est la forme politique de la modernité qui est liée au changement politique, économique, technologique et social. La formation des nations s'est inscrite dans un processus de bouleversement radical, concret et conceptuel des sociétés européennes, puis plus largement des sociétés dans le monde. Bouleversements qui ont été marqués par l'industrialisation, l'urbanisation, le développement des marchés, la revendication d'égalité, d'émancipation, etc. Mais ces changements radicaux ont été appuyés sur la représentation de la nation, non pas comme une nouveauté, mais comme une communauté extrêmement ancienne qui aurait traversé les siècles. Les argumentaires nationalistes n'ont jamais revendiqué de changer la société pour un futur totalement nouveau. Au contraire, ils prétendaient restituer un passé fondamental. Construire la nation, selon cet argumentaire, c'était en fait retourner aux origines, leur redevenir fidèle, enfin fidèle. Il fallait réveiller la nation de l'oubli dans lequel elle était tombée. Et ce n'est pas un hasard si la métaphore de la Belle au bois dormant apparaît dans beaucoup d'intitulés de mouvements nationalistes du XIXe siècle, à commencer par celui qu'on connaît tous ici, le Risorgimento italien. Et ce thème de la résurrection, du retour, du réveil, est le terme qui définit le plus fréquemment les mouvements nationalistes du XIXe siècle. Le terme par lequel ils se sont désignés. Réveil, retour, retour aux origines. On fait la révolution par le retour aux origines. Les deux derniers siècles, du coup, ont pratiqué simultanément religion du progrès et culte du passé. Et il n'y avait pas, en fait, contradiction entre ces deux volets de la modernité, qui a une figure de Janus, en fait. Pour que tout change sans dislocation, il faut sans doute croire que rien ne change, en fait. On peut accepter tous les changements à condition de croire qu'on ne change rien. Et à l'ère moderne, le passé, désormais nationalisé, a acquis une fonction pédagogique. Sa fonction pédagogique, la fonction du passé, c'était de donner des leçons pour le présent. Et l'enseignement de l'histoire nationale est devenu de fait, dès les débuts de l'enseignement de masse, une matière fondamentale associée à l'instruction civique et morale. Ce qui supposait qu'en fait, les enjeux présents et à venir de la société déterminaient la mise en écriture et en représentation du passé national. Si le passé national pouvait donner des leçons pour le présent et pour l'avenir, c'est bien évidemment qu'il avait été écrit dans cette perspective, écrit et réécrit. Parce que le passé national, pensons à notre histoire, quelle que soit notre nation, le passé national, c'est l'histoire d'un être collectif. Le passé national, c'est le roman d'éducation, souvent pathétique, douloureux, mais héroïque, d'une communauté transsociale et territorialisée qui va, à travers les siècles, être confrontée en permanence à l'oppression, à des ennemis qui veulent la détruire, à des tyrans qui veulent l'écraser. La nation souffre énormément. Elle connaît beaucoup de défaites. Les défaites sont très importantes dans une histoire nationale. Mais à travers ces défaites, elle sait se réunir, s'unir, verser collectivement son sang pour cet idéal toujours présent et in fine atteint de sa réunion, de son indépendance, de son émancipation. Les héros d'histoire nationale, on le sait, appartiennent à toutes les classes de la société. Et c'est très important dans une histoire nationale. Ce rôle de l'histoire nationale pour fonder la société, la nation dans le présent et dans l'avenir implique donc des réécritures perpétuelles de l'histoire qui font apparaître régulièrement dans le passé donc ceux qui intègrent à nouveau la communauté nationale. Et donc c'est un enjeu extrêmement important pour ceux qui s'intègrent dans une nation de s'intégrer dans son passé. Et là nous avons beaucoup d'exemples récents. Je pense au cas des femmes, je pense au cas des immigrés, de vouloir revendiquer une place, non pas simplement dans le présent et dans l'avenir de la nation, mais dans son passé. Et donc, il y a eu récemment des réécritures de l'histoire, des muséographies différentes de l'histoire nationale, prenant en compte ces revendications présentes. Un autre élément important de la formation des nations modernes, ça a été la formation des langues nationales. puisque la carte politique de l'Europe correspond aujourd'hui approximativement à une carte linguistique, ce qui fait que les frontières étatiques sont maintenant, pour l'essentiel, des frontières linguistiques, et que l'on peut, en revanche, circuler à l'intérieur d'un même État en utilisant partout la même langue. Je rappelle quand même que le paysage linguistique de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle était complètement différent, puisque au sein d'un même État, la langue des élites, la langue religieuse, la langue de l'enseignement, la langue de l'administration pouvaient être absolument différentes et coexister en général avec des parlers populaires à forme orale diversifiée. Je rappelle que le français était au XVIIIe siècle la langue de conversation et d'écriture de l'élite européenne, mais une très grande partie des sujets du roi de France, notamment une bonne partie des paysans, mais une partie même de la noblesse française, était incapable de parler ou d'écrire le français. La monarchie française avait fait de la langue du roi une langue administrative et une langue de culture, mais le roi de France était totalement indifférent à l'extrême diversité linguistique de ses paysans, dont il attendait surtout qu'ils payent l'impôt et se tiennent tranquilles. Tout a changé très très vite après la Révolution, puisque l'éradication des patois, vestige de l'ancien régime, a paru une nécessité politique et la première étape d'un nécessaire processus de modernisation. D'une manière générale, en Europe, la formation de la nation, la modernisation politique ont été associées à l'idée de communauté linguistique homogène. Alors, ce qui caractérise les langues nationales modernes, c'est qu'elles doivent être utilisées par tous les membres de la nation, quelle que soit leur origine géographique, quel que soit leur statut social. Et par ailleurs, ces langues nationales doivent servir à tous les usages, des plus triviaux aux plus élevés, de l'achat de légumes sur le marché au discours politique, en passant par la déclaration amoureuse ou la conférence académique. Ce qui n'était absolument pas le cas en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et du coup, le XIXe siècle a été le théâtre de très grandes opérations de construction, modernisation et diffusion de nouvelles langues, dites langues nationales, constituées à partir de bases diverses. Et donc là, je ne vais pas vous exposer tous les cas que l'on peut trouver. Autre élément important de la formation des identités nationales actuelles, c'est le rôle qui y a été accordé à un groupe social qui auparavant était le groupe le plus supposé dépourvu de culture en Europe, savoir la paysannerie. Le paysan est devenu, dans l'Europe du XIXe siècle, puis du XXe siècle, un véritable symbole national, une incarnation de la nation. D'une certaine manière, on peut même dire que la paysannerie a été constituée comme une sorte de musée vivant des origines nationales, qui aurait maintenu, grâce à ses traditions, une sorte de continuité directe avec les grands ancêtres. La paysannerie était aussi supposée avoir un rapport intime avec la terre nationale. Du coup, à partir du début de l'ère nationale, au début du XIXe siècle, des intellectuels se sont mis à multiplier les enquêtes et les collectes ethnographiques pour mettre au jour les fondements authentiques des cultures nationales modernes. Et plus les nations européennes s'industrialisaient, plus elles s'urbanisaient, plus elles plaçaient leur identité sous la référence à l'archaïsme et au monde rural. Et dans ces grandes exhibitions identitaires qu'ont été les expositions internationales à partir de 1851, on avait des grands pavillons qui exposaient les dernières découvertes de la science et de la technique, les machines, l'électricité, etc. Et ces pavillons donc de la modernité triomphante voisinaient avec des expositions de traditions populaires nationales et de villages ethnographiques qui étaient censés présenter pour chaque nation son identité. La paysannerie a été investie, en l'occurrence, d'une fonction identitaire nationale sociale. Elle devait en effet incarner la nation authentique et pure par opposition à un prolétariat, censé être d'autant plus dangereux pour la nation qu'il pouvait apparaître à la fois comme non national d'origine, l'immigration est constitutive dès les débuts du prolétariat, et, pire encore, internationaliste. Car il faut souligner quand même une des conséquences majeures du principe national, celui d'avoir généré sa contradiction. L'égalité juridique des citoyens, la solidarité de la communauté nationale ont été affirmées, alors que le système capitaliste en expansion marquait de nouvelles différences économiques entre les individus. Et au milieu du XIXe siècle, au moment même où commence à s'imposer en Europe le principe national, se constitue son apparent opposé, l'internationalisme. 1848, c'est à la fois le printemps des nations et la date de naissance de l'internationalisme marxiste, celui des prolétaires qui n'ont pas de patrie et qui, par-delà les différents pays où ils vivent, doivent s'unir. D'un côté donc, l'identité sur base de classe, par-delà les appartenances nationales, et de l'autre, l'identité nationale interclasse. L'antagonisme entre ces deux principes a été apparemment la grande division qui a partagé le monde entre 1917 et 1991. Bon, la réalité a été en fait beaucoup plus complexe, puisqu'on sait que socialisme, communisme, patriotisme et nationalisme ont donné lieu à beaucoup de combinaisons. Pour résumer, la montée en puissance du principe national a eu toute une série de conséquences. Certaines peuvent être considérées comme positives et nous y sommes attachés. Ça a été la création de nouvelles communautés séculières portées par des revendications libérales d'émancipation et de solidarité transsociale. Les États-nations ont servi de berceau à la démocratie et au développement économique. Mais d'autres conséquences ont tragiquement marqué l'histoire de l'Europe et du monde. La volonté de faire coïncider un territoire, une culture homogène et une communauté politique. L'objectif d'identifier État et nation a entraîné toutes sortes d'exactions contre des populations qui, désormais, ont été appelées minoritaires. Il y a eu, en quantité, des assimilations forcées, des expulsions et des exterminations. Les théories raciales élaborées au XIXe siècle ont d'ailleurs servi à poser comme irréductibles des différences culturelles plus ou moins accentuées et, comme toute différence culturelle, labile. Le XXe siècle a commencé en Europe par les premiers nettoyages ethniques dans les Balkans et l'affrontement terrible des nationalismes européens dans ce qui est devenu la première guerre qualifiée de mondiale. Arrivé à ce point, et au terme de beaucoup de minutes de mon intervention, je n'ai pas encore abordé la question religieuse. C'est que l'avènement de la nation moderne en Europe relève de la phase avancée d'un processus de sécularisation. La religion, avec l'avènement de la nation moderne, perd sa fonction de légitimation du pouvoir. La monarchie française, par exemple, était, on le sait, de droit divin, ce que marquait notamment le sacre royal. Et en fait, durant les siècles précédant l'ère nationale, les souverains de l'Europe monarchique se référaient, le plus souvent, à une transcendance pour asseoir leur pouvoir. Alors, certes, très souvent, ils avaient commencé à développer leur pouvoir séculier en essayant de poser les limites du pouvoir religieux, et notamment celui du pape, avec des entreprises plus ou moins poussées d'étatisation de l'Église, la plus radicale étant celle qui avait conduit à l'instauration de la religion anglicane. D'autre part, les souverains avaient aussi voulu contrôler leurs sujets, en évitant les guerres civiles et la contestation de leur pouvoir que portaient en germe les différences religieuses. Et ces contestations de leur pouvoir et les guerres civiles qui pouvaient d'ailleurs se manifester à l'occasion s'étaient tragiquement manifestées à l'occasion des guerres de religion, ce qui avait entraîné ces opérations d'homogénéisation religieuse des États à la suite des guerres de religion, par contrainte, par violence, par massacre, nettoyage religieux, par expulsion de masse. De là ce principe qui avait régi une bonne partie de l'Europe après les guerres de religion, cuius regio et eius religio, c'est-à-dire bon, la religion de l'État et la religion du prince, et donc on élimine tous ceux qui n'ont pas la religion du prince. L'avènement du principe national a modifié radicalement le principe de la souveraineté en la faisant procéder d'ici bas et d'en bas, au sens social, c'est-à-dire de la société et de la communauté des citoyens en allant au plus bas social de cette communauté des citoyens. Du coup, la communauté politique ne requiert plus l'homogénéité religieuse, ce qui avait été le cas précédemment, mais l'homogénéité culturelle, ce sur quoi j'ai insisté. La nation moderne est une nation culturellement homogène. Son homogénéité religieuse devient absolument secondaire, n'a plus d'importance politique. Et d'autre part, les revendications de tolérance qui s'étaient développées depuis la réforme, les notions émergentes d'individu, de liberté individuelle, ont contribué à faire de la croyance religieuse un droit de l'individu. La religion ne devient donc plus un fondement du politique, mais un droit ouvert et garanti par le politique. Ce qu'exprime l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». En avril 90 d'ailleurs, 1790, la religion catholique a cessé d'être religion d'État en France, ce qui a ouvert des droits de la citoyenneté pour les protestants, puis pour les juifs de France. Ces droits d'ailleurs à la citoyenneté s'ouvrant progressivement aux minorités religieuses et aux juifs dans les différents États européens à mesure qu'ils accédaient au stade national. La formation de certaines nations européennes d'ailleurs n'a pu être possible que par ce dépassement du religieux qui relègue la différence religieuse de la sphère politique à la sphère privée. Bon, il y a le cas notamment de la nation allemande qui s'est fondée précisément sur l'abolition de la différence entre État catholique et État protestant. Et je rappelle que l'antisémitisme nazi s'est fondé sur un argumentaire raciste, raciologique et non pas religieux. Et de fait, tous les juifs, au sens de ces critères dits raciologiques, ont été persécutés, y compris les convertis à d'autres religions ou les juifs qui n'avaient aucune pratique religieuse. Alors que la nation soit le fruit d'un processus de sécularisation ne veut pas dire que le religieux ait cessé de marquer profondément les sociétés européennes. Les institutions, les juridictions nationales ont été clairement marquées par la religion majoritaire. Et on en a eu encore des formes récentes, jusqu'à une date récente, dans la législation, notamment des pays catholiques, en matière de droit au divorce, de droit à l'avortement. On sait aussi que les pouvoirs temporels ont continué à composer avec les pouvoirs religieux, en essayant aussi de les contrôler, ce qui s'est traduit par les concordats, par éventuellement les lois de séparation, mais aussi par des mesures qui ont été parfois assez vives, et notamment en matière d'expulsion de congrégations religieuses, les jésuites en ayant fait très très souvent les frais dans la mesure où ils étaient supposés constituer une sorte de cinquième colonne du Vatican. D'autre part, l'avènement de la nation moderne a tendu à accentuer un processus de nationalisation des églises, ce qui a été le cas notamment et très explicitement pour les églises dites autocéphales, dans le cadre de l'Europe orthodoxe, autocéphales, ça veut dire qu'elles prenaient effectivement leur indépendance par rapport à un centre religieux. Et une étape ultime et tout à fait remarquable de cette nationalisation des églises, ça a été l'engagement nationaliste de ces églises, lors des guerres mondiales, et notamment lors de la Première Guerre mondiale, on sait bien qu'il y eut le « Gott mit uns », « Dieu est avec les troupes françaises »,« Dieu bénit les troupes italiennes », etc., etc. Dieu a été mobilisé par les différents camps en présence. Et Dieu n'a pas été beaucoup plus efficace que la Seconde Internationale pour régler le conflit. On a pu dire aussi que le culte de la nation a joué le rôle de religion séculière moderne. Et par beaucoup d'aspects, le culte de la nation a repris les formes antérieures de la célébration religieuse. Le discours de la croyance, je crois en la France, je crois en l'Espagne, je crois au Mexique. Je l'ai entendu chanter encore récemment au Mexique. Le discours de la fidélité jurée, du sang versé pour la nation, de la mort comme martyr de la nation. Le discours donc de la célébration des grands hommes, ben, tout cela emprunte énormément au culte religieux. J'étais vendredi dernier à Varsovie, je participais à une visite de la ville. On nous a emmené voir l'église où repose le cœur de Chopin. Hein, il y a des reliques de héros nationaux. On visite la maison où ils ont vécu, on va admirer leur statue, comme il y eut autrefois des reliques religieuses et des lieux de pèlerinage. Les commémorations et les fêtes nationales, les hymnes et une bonne partie de la production culturelle iconographique nationaliste, célébration de la nation, reprend les formes de la représentation religieuse. On peut même dire qu'il y a un intégrisme du national qui, par bien des aspects, évoque l'intégrisme religieux. Je pense notamment aux questions linguistiques. À ce sujet, je voudrais rappeler quand même que la langue française a été introduite dans la Constitution française, sous l'expression « la langue de la République est le français » en 1992, ni en 1792, ni en 1892. Je crois aussi qu'au Québec récemment, un projet de ce type a soulevé de très violentes polémiques. Mais je pense qu'il y a dans une bonne partie des États-nations actuels un intégrisme du national qui se joue à travers la question de la langue. Et nos voisins belges n'en sont pas le seul exemple aujourd'hui. Je dois quand même rappeler ici que dans le cas français, comme dans celui des autres nations impériales, il y a eu en la matière dissociation entre les citoyens de la nation et les sujets de l'Empire. Les plus puissants des États occidentaux, au moment où ils se configuraient en nations modernes, se sont taillés, on le sait, de gigantesques empires coloniaux en Afrique et en Asie. Pour justifier ces conquêtes et pour refuser aux populations des territoires conquis les droits civiques et sociaux modernes, on affirmait que la nation représentait un stade élevé de civilisation, le stade ultime de la civilisation. Or, les populations conquises, déclaraient les colonisateurs, très tristement, étaient bien trop éloignées de ce stade pour prétendre former des nations et donc des États souverains. Je vous cite un grand intellectuel du XXe siècle, des propos qu'il a écrits en 1920. Une énorme quantité de sociétés et d'États existent encore dans le monde qui ne méritent à aucun degré le nom de nation. Toutes les sociétés de l'Asie, sauf peut-être l'Inde, la Chine et le Japon, qui sont en ce moment à des degrés divers de transition en voie de former des États. Toutes les sociétés indigènes de l'Afrique, celles de l'Océanie, ne peuvent être considérées comme des nations ou même des États. C'est par des fictions ridicules et destinée à duper les malheureux colonisés et les rivaux colonisateurs que le XVIIIe et le XIXe siècle appliquaient à de malheureux Australiens, à la reine Pomarée ou aux chefs du Congo et du Zambèze, des usages invraisemblables et mal fixés du droit des sociétés chrétiennes, des drapeaux et des protectorats. Fin de citation, citation que j'emprunte à Marcel Mauss, anthropologue, éminent intellectuel, dans des écrits qu'il a rédigés en 1920, à la suite donc des congrès post-Première Guerre mondiale. Pour le citoyen de la nation, la pratique religieuse, c'était un choix individuel, garanti comme droit civique. Pour l'indigène de l'Empire colonial, c'était une appartenance collective, à la fois difficilement révocable et excluant, ipso facto, des droits civiques. D'où d'ailleurs, je crois, cette catégorie qui a été utilisée quelquefois dans l'Algérie française, indigène, musulman, catholique. Je termine. Pour accéder à l'indépendance, les anciennes colonies ont dû se présenter comme de vraies nations. Et les luttes de décolonisation se sont présentées comme des luttes de libération nationale, ce qu'exprimaient d'ailleurs le plus souvent les intitulés de mouvements combattants comme le FLN. L'avènement de la nation, ça a été dans ce cas donc moins le résultat d'un processus de sécularisation que l'affranchissement d'un pouvoir colonial qui n'avait pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, voulu développer la sécularisation des sociétés colonisées. Et donc notre début de XXIe siècle est vraiment fertile en contradictions. La fin de la guerre froide, la délégitimation de l'internationalisme marxiste ont, sans aucun doute, contribue au regain actuel d'identité collective forte et ancienne, comme le national et le religieux. La nature ayant horreur du vide, il y a eu retour donc de ces vieilles identités. Mais le retour du national comme idéal communautaire s'effectue donc en un temps où les transformations de la production économique, des échanges, des rapports de force mettent sérieusement en question le rôle protecteur qui a été celui des États-nations et le rôle de solidarité, de garant de la solidarité nationale qu'ils ont pu jouer. Et les États-nations européens qui se sont constitués dans le cadre de processus de sécularisation et de nationalisation du religieux tentent, on le comprend bien, la réapplication de ces vieux processus aux religions qui se sont développées sur leur territoire avec l'immigration, notamment l'islam. Mais du coup, il s'agit ici de pratiquer à vitesse accélérée, de surcroît sur des populations qui, il y a encore peu de temps, étaient écartées par ces mêmes États de la sécularisation, dans un contexte où l'État-nation est dans une phase de régression de ses pouvoirs d'intervention, de réitérer une vieille formule. Alors, je pense que dans le monde de la globalisation, d'autres systèmes d'organisation sociale et politique, d'autres représentations des rapports entre individus et collectifs, sont probablement aujourd'hui en genèse, et en tout cas je l'espère. Et si je me suis permis ce long détour historique sur la formation du national, c'est que je pense que ce retour historique est nécessaire pour comprendre les usages actuels du recours à la nation et les usages qu'on peut en faire en relation avec le religieux. Je vous remercie de votre attention.